Le journal Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un pays au bord du gouffre, Haïti, dont le président a été assassiné hier par des mercenaires. Quatre d'entre eux ont été tués cette nuit par la police. Que sait-on de ce meurtre? Quelles conséquences pour ce pays gangréné par la violence? Élément de réponse dans un instant. Le pass sanitaire sera-t-il étendu pour tenter de booster la vaccination? Réunion à Matignon aujourd'hui avec des élus locaux partagés sur la question, on l'entendra. À suivre également la stratégie de Stellantis, ex-PSA Fiat, afin de basculer vers la voiture toute électrique, des auteurs de science-fiction au secours de l'armée, et puis les 100 ans d'un sage, Edgar Morin, reçu aujourd'hui à l'Élysée pour son anniversaire.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui Mila, au lendemain du procès qui a condamné 11 de ses cyber-harceleurs.
France Inter.
Haïti, Sébastien. Haïti au cœur des inquiétudes de la communauté internationale.
Réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU suite à l'assassinat hier du président haïtien Jovenel Moïse par un commando de mercenaires dont quatre membres, on l'a appris cette nuit, auraient été tués selon la police haïtienne. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Sébastien.
On en sait un peu plus ce matin sur cette opération armée.
Oui, une opération de police qui serait toujours en cours contre le commando qui a tué Jovenel Moïse. Le chef de la police a tenu une conférence de presse il y a quelques heures. Il affirme donc que quatre hommes ont été tués, deux autres arrêtés. Trois policiers qui avaient été pris en otage ont par ailleurs été relâchés. Les mercenaires, dit-il, seront tués ou capturés. On a peu d'informations sur ce commando. Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, assure que les assaillants qui ont agi en pleine nuit parlaient anglais et espagnol. D'après l'ambassadeur haïtien aux États-Unis, les tueurs se sont fait passer pour des responsables de l'agence américaine anti-drogue. La dépouille du président Moïse a été retrouvée criblée de 12 balles, l'œuvre de professionnels manifestement. Son bureau et sa chambre ont été saccagés. L'épouse de Jovenel Moïse, blessée dans l'attaque, a été évacuée vers la Floride pour y être soignée. On n'a pas d'autres détails à ce stade sur les auteurs de l'assassinat, leur nombre ou le mobile. Les informations qui circulent, officielles ou non, sont peu fiables. Le Premier ministre Claude Joseph assure être aux commandes d'Haïti, mais un autre Premier ministre avait été nommé lundi par Jovenel Moïse. Justement, il n'est pas encore entré en fonction, ce qui ajoute à la confusion et les institutions du pays sont presque toutes dysfonctionnelles. Le Parlement n'est plus opérationnel, par exemple, depuis un an et demi.
Franck Madvon, merci. La rédaction internationale, l'État de siège depuis hier a été décrété dans le pays, Haïti, un pays en pleine dérive qui pourrait basculer à tout moment dans le chaos, rongé par l'insécurité, comme le raconte Pierre Mandiara, il est directeur adjoint des opérations à Médecins Sans Frontières, il revient d'un mois de mission à Haïti.
Il y a une bataille pour du territoire par des groupes armés, au point où il y a eu ces dernières semaines des quartiers entiers qui se sont vidés de leur population, les gens ne pouvaient plus rester tellement l'intensité des combats était forte. C'est très difficile de se déplacer d'un quartier à l'autre, il y a en permanence des routes bloquées, des attaques, des manifestations qui dégénèrent, des opérations de police. Nous avons un collègue à nous haïtien qui, un jour où il revenait du travail, a été victime d'un braquage pour lui voler sa voiture alors qu'il était coincé dans un bouchon, il a été tué. Il y a deux semaines, nous avions été obligés déjà de fermer un de nos centres de santé, une salle d'urgence, parce qu'il se trouve qu'on avait été des victimes de tirs directs. Je pense que c'est une situation qui est en grande partie hors de contrôle.
Voilà le directeur adjoint des opérations à MSF de retour d'Haïti avec Juliette Piron.
Il est 7h33, le nombre de cas de Covid ne cesse de remonter en France, Sébastien, mais sans conséquence pour l'instant sur les hôpitaux.
On est passé hier au-dessus de la barre des 4000 nouveaux cas. En revanche, le nombre de personnes en réanimation est passé, lui, en dessous de la barre des 1000. Face à cette situation, nouvelle réunion du Conseil de défense sanitaire lundi prochain. Le chef de l'État devrait trancher la question de l'obligation vaccinale pour les soignants, qui fait globalement l'unanimité, y compris chez les organisations professionnelles de santé, qui s'engagent à soutenir une loi si c'est nécessaire. Dernière consultation aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex réunit les associations d'élus locaux sur cette question, mais aussi sur une autre mesure possible, le pass sanitaire. Faut-il l'étendre pour pousser les plus réticents à se faire vacciner? Pour l'instant, Karine Bécard, on est encore loin d'un consensus.
L'accélération du variant Delta prend tout le monde de court, en particulier les nouveaux élus dans les conseils départementaux qui viennent à peine de s'installer. Ils n'ont pas encore eu le temps de s'intéresser vraiment à tous ces sujets. André Acari, le président de la Saône-et-Loire, qui vient lui d'être réélu, propose d'élargir la vaccination obligatoire à tous les intervenants à domicile.
Ils sont plusieurs milliers évidemment à intervenir dans toute la France auprès des personnes âgées, donc notamment des personnes plus fragiles. C'est pour ça qu'il nous semble indispensable que cette vaccination soit soit obligatoire pour ces personnes intervenant à domicile.
Et c'est le message qu'il transmettra au nom de l'Association des départements de France à la réunion d'aujourd'hui. Maintenant, faudra-t-il exiger plus souvent la présentation du pass sanitaire ? Seuls les maires ont une réponse claire. Pour André Léniel, le vice-président de l'Association des maires, il n'en est pas question.
Renforcer les ségrégations à travers des démarches qui impliqueraient que certains ont cette liberté et que d'autres ne l'ont pas, ne sont pas du tout à l'ordre du jour des maires de France.
Quant aux régions, pour finir, elles n'ont pas officiellement de position. Leur président, à peine sorti de leur réélection, ne pensait pas visiblement replonger aussi vite dans les impératifs de la crise.
Karine Bécard, le rebond de l'économie française sera plus important qu'anticipé au deuxième trimestre, plus 1% au lieu de 0,5% selon la Banque de France. C'est dans ce contexte de crise sanitaire et de reprise économique que Stellantis doit présenter aujourd'hui sa nouvelle stratégie d'électrification. Stellantis, anciennement PSA Fiat, veut amorcer le virage du véhicule tout électrique avec des objectifs ambitieux d'ici moins de 10 ans. Les détails avec Hélène Philly.
Carlos Tavares le dit lui-même, l'électrification est le défi numéro un de toute l'industrie automobile. Le patron de Stellantis est bien obligé de s'y convertir et d'aller vite. Les États poussent, tout comme l'Europe. Son horizon, 2030 et 70% des ventes en électrique contre 14% cette année, c'est dire l'ambition. L'heure est aux investissements massifs pour transformer les usines, le mode d'approvisionnement, faire évoluer les compétences. L'une des grandes questions est la place de la France dans ce plan. L'électrification est-elle un levier pour relocaliser des usines d'assemblage notamment ? C'est bien ce qu'attendent de savoir les experts du secteur et surtout les syndicats de l'entreprise. Les pouvoirs publics mettent de l'argent sur la table, conscients que la conversion des usines françaises se fera dans la douleur. Les constructeurs affichent de leur côté la volonté d'installer des usines de batteries, on le voit par exemple dans le nord de la France. Mais avec quel volume et quel partenariat ? Pas sûr que les constructeurs français s'associent, l'heure est à la concurrence.
Hélène Philly, au chapitre judiciaire, Hubert Caouissin échappe à la prison à perpétuité. Il écope de 30 ans de réclusion criminelle pour le quadruple meurtre de la famille Troadec. Quand l'armée française se sert de la SF pour imaginer les menaces futures, 10 auteurs, dessinateurs, scénaristes de science-fiction ont été choisis pour nourrir la réflexion des experts de l'armée. Pendant 3 ans, ils devront ainsi imaginer les pires scénarios, cataclysmes climatiques, conflits asymétriques, attentats biologiques, et ils viennent de dévoiler leurs premières idées. Exemple de cette saison 1 avec Julie Pietri.
Nous sommes projetés en 2045 dans un mystérieux pays ravagé par des inondations et visé aussi par une attaque biologique. L'armée française doit évacuer ses ressortissants, mais dans ce pays, il n'existe pas une seule réalité. Chaque habitant décide depuis longtemps de ce qu'il veut vivre et voir. Il peut gommer ce qui ne lui plaît pas.
J'avais jamais vu ça.
Les soldats se retrouvent face à des personnes déconnectées du monde réel et enfermées dans leur bulle.
C'était le chaos.
Sincèrement, ça pourrait être quasiment demain.
Laurent Jeunefort, auteur de science-fiction, aux côtés de Virginie Tourné, spécialisée, elle, en fiction politique.
On voit à quelle rapidité les réseaux sociaux changent de, presque de nature. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait muter les réseaux sociaux. C'est une sorte de descendant des réseaux sociaux d'aujourd'hui.
L'objectif de la Red Team, c'est d'essayer d'imaginer des menaces que l'armée n'aurait pas nécessairement pensé, imaginé.
Résultat, une armée surprise et parfois même préoccupée. Emmanuel Kiva est le directeur de l'agence Innovation Défense du ministère des Armées.
Oui, parce que finalement les auteurs ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux, nous inquiéter, nous exposer des vulnérabilités, nous faire envisager des mondes qui nous donnent aucune envie d'y vivre et surtout qui nous challenge finalement sur les dispositions qu'on devait prendre dès aujourd'hui pour éviter de se retrouver confronté à ce type de menace.
Certains scénarios sont publics, d'autres, une bonne partie, restent top secret.
Voilà, jolie Pietri. Donald Trump, lui, passe à la contre-offensive, banni des grands sociaux, des grands réseaux sociaux. Depuis l'assaut du Capitole, l'ex-président américain a déposé hier des plaintes contre Facebook, Twitter et Google, les accusant d'être responsables d'une censure illégale et inconstitutionnelle. Un mot de foot également avec l'affiche de la finale de l'Euro de football dimanche. Ce sera finalement Angleterre contre Italie. Les Anglais qui ont écarté les Danois hier soir 2-1 après prolongation.
Et on termine 7h39 avec un beau gâteau d'anniversaire.
Celui des Edgar Morin, né le 8 juillet 1921. L'intellectuel aura donc aujourd'hui 100 ans. Il sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée pour célébrer un parcours exceptionnel. Il a la mort, Youssef.
Il en va d'Edgar Morin comme de Jean d'Ormesson ou de Stéphane Hessel. Avec l'âge, ils deviennent des figures de sagesse, vieillards vénérés pour leurs engagements ou leur joie de vivre, plus peut-être que pour leur œuvre. On cherche chez eux, comme s'ils pouvaient se transmettre, le secret de la jeunesse éternelle. Ce secret, Edgar Morin le livre bien volontiers. C'était en septembre 2019, dans la matinale de France Inter.
Je crois que c'est l'amour, l'amitié, la curiosité qui restent toujours présentes en moi. Quand j'ai pris ma retraite au CNRS, la seule différence, c'est que ma rémunération a baissé, mais que mon travail a augmenté. Les forces de vie qui sont en moi continuent à être très fortes, les forces d'amour, tout ceci continue à me tonifier.
Entrée dans la résistance à 20 ans, rupture avec le communisme bien avant la plupart des intellectuels, lucidité sur la guerre d'Algérie, défense de l'écologie, Edgar Morin a épousé les grands combats de son temps, au risque de se tromper, comme lorsqu'il co-signe deux ouvrages avec l'intellectuel islamiste Tariq Ramadan. Mais pour l'époque, il est avant tout une figure humaniste qui rassure.
Les 100 ans d'Edgar Morin, c'était avec Ilana Mourioussef.
Et on vous remercie, Sébastien Legénie. L'édito politique est à